Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La BPI est très heureuse de vous accueillir ce soir pour cette seconde rencontre consacrée au journalisme judiciaire. La première rencontre a eu lieu le 20 mars et la captation de cette rencontre est disponible sur le replay de la BPI, donc je vous invite à la regarder. À l'issue de cette rencontre, il y aura une signature organisée par la librairie du Centre Pompidou, donc pour nos trois invités. Et voilà. Et je laisse la parole à Hervé Brusigny qui va animer cette rencontre et qui est le président du Prix Albert Londres. Merci.
Wow. Merci Jérôme. Bonsoir. Alors d'abord, ce qu'on pourrait faire, c'est remercier Jérôme parce que c'est sa dernière et qu'il a été d'enfer. Merci Monsieur Jérôme Chevrier. Tu as l'audace de partir sous d'autres cieux, grand bien te fasse. Et on fait la même chose avec les deux hommes qui sont de l'autre côté, là-bas à la régie, parce que je les oublie toujours et cette fois, ça ne sera pas le cas. Merci pour eux. Et un énorme merci à cette foule énorme d'être là, oui, selon les organisateurs et les forces de l'ordre. Et donc, voilà, moi je suis ravi parce que il y a trois consoeurs formidables. Je sais qu'on dit toujours ça. Et alors elle se dit, ça y est, c'est parti, formidable. Ben oui, formidable parce qu'elles sont dans la sincérité, dans l'engagement, dans le travail au long cours. Et je trouve que la justice devrait les remercier pour ce qu'elles font, ce qu'elles ont écrit, parce qu'elles sont salutaires dans l'information qu'elles nous offrent. Et là, nous allons avec elles évoquer les coulisses du métier, les grands souvenirs récents ou un peu plus âgés. Je ne vous ai pas regardé. Je parle pour moi. Et donc, vous savez que cette rencontre se situe dans une sorte de lignée qui sont des... la profession reporter sous l'égide d'Albert Londres. Il ne s'agit pas de faire de la mythologie à l'égard de cet homme, mais simplement ici, à chaque fois, de parler des valeurs qui animent ce journalisme, qui est un journalisme de terrain, et la salle d'audience, c'est un terrain. C'est une salle d'enquête, c'est une salle où il faut avoir tous les sens en éveil, il faut voir ce que vous avez fait beaucoup, vous toutes. Et puis, il faut aussi beaucoup écouter. Et il ne faut pas hésiter à aller au monde qui existe alentour, c'est-à-dire parfois le bistrot, le bar qui jouxte la salle d'audience. Alors, Albert Londres n'a jamais fait de compte-rendu judiciaire. Et d'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que le prix, du coup, a... pas souvent, et c'est un euphémisme, saluer la chronique judiciaire en soi. Et pourtant, il y a souvent des candidatures. La seule fois où Albert Londres parle d'une enceinte judiciaire, c'est lorsqu'il est en visite au bagne. Hein, c'est une enceinte, vous imaginez, toute particulière. Je l'ai citée la dernière fois, mais je voudrais être juste un tout petit peu plus complet d'une phrase. Parce que, voilà, on y sent le sens de l'observation et de l'écoute qui est pratiqué ici par nos trois consoeurs. Donc, Albert est au bagne, il enquête, et vous savez qu'il a dénoncé effectivement cette torture, je dirais, pénitentiaire infligée aux hommes de l'époque. Il a quand même fallu 35 ans pour qu'ensuite on supprime effectivement l'institution du bagne en France. Et donc, comme tout bon papier judiciaire, il démarre par cette phrase peu connue, « Faites entrer l'accusé ». Par la porte donnant sur la cour du camp, on voit un forçat jeter à terre son chapeau de tresse. Pieds nus, il pénètre dans le sanctuaire rectangulaire de la justice, le sanctuaire rectangulaire de la justice. Le gars a l'air ému, mais c'est de la frime. Le tribunal maritime ressemble à une chapelle. À la place du chœur, Le capitaine et ses assistants en bas, au-dessous de trois marches, banc à droite, banc à gauche, à droite accusé et témoin, à gauche la défense, et au fond, cinq Suisses noirs, cinq soldats de Guyane, baïonnettes au canon, qui gardent la scène. Vous voyez, on la voit déjà, cette scène.
Donc ça, c'est...
Juste pour évoquer ce qu'est le reporter au travail, qui capte les choses et qui vous les transmet. Après, juste cet autre ouvrage qui est c'est dans une collection qui redémarre aujourd'hui, qui a relancé Artaud, qui est celle des grands reportages. Ça, c'est Joseph Kessel, les reportages paru dans Détective, car vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les frères Kessel qui ont relancé Détective dans les années 20, en 1929, et ils ont même employé à l'époque Albert Londres, qui racontait d'autres choses que des récits de crimes purs et simples. Et là aussi, je voudrais juste vous lire ces quelques extraits, parce que je vais en lire beaucoup d'autres, et cette fois plus contemporains, qui sont ces quelques mots de Kessel à l'égard du crime. Rien n'est plus saisissant, rien ne porte mieux à une sorte de stupeur dramatique que les mouvements meurtriers. Déjà, toute mort violente détermine en nous un lourd malaise, et la révolte de notre instinct le plus puissant, celui de vivre. Mais quand cette mort est déchaînée par des hommes qui, loin de songer à tuer, loin d'admettre cette idée, eussent, avant de frapper, haussé les épaules si on leur avait parlé du geste qu'ils devaient pourtant commettre, ce malaise devient de l'angoisse et la révolte se change en un trouble secret. C'est ce trouble secret que on va interroger ensemble ici avec, je dirais, les métiers de la chronique judiciaire, un métier de radio, mais aussi d'écrit et de prise de vue, et même de télé, puisque maintenant c'est média global, vous aussi, dans une plateforme bien particulière qui s'appelle...
Slate.fr.
Bravo. Et de l'autre côté, la chronique judiciaire via le dessin. Donc, ces trois livres, comme ça on ne pourra pas dire que je ne les ai pas montrés, celui de Charlotte Piret, avec Arthur Desnouveaux et Xavier Nogueras. Arthur Desnouveaux qui était le président de l'association Life for Paris.
Une des associations de victimes des attentats.
Des attentats. Et Xavier Nogueras, qui était l'avocat...
Qui est avocat de la défense, ancien secrétaire de la conférence, et qui était l'avocat d'un des accusés du procès, l'avocat
absolument
de Mohamed Amari, qui est l'un des accusés.
Oui. Deux hommes remarquables. En votre compagnie, donc, Les nuits que l'on choisit, de Lise Costa. Et votre livre que vous avez co-signé avec à nouveau Arthur Desnouveaux et Antoine Garapon, bien connu dans le métier, jugé le 13 novembre, Noël Ehrenschmidt. Noël, j'ai vu que, en fait, vous êtes une figure connue des prétoires. Vous avez commencé en quelle année, pour quel procès ?
J'ai commencé en 1987. J'ai commencé en 1987 avec le procès Barbie. J'avais déjà 44 ans, je cherchais un second souffle, et je suis tombée sur Barbie après avoir été dessinée au Palais de Justice de Paris, par hasard.
Alors, on va le voir, Barbie. Allons-y, mes amis. C'est moi qui dois faire clic. Alors là, on est mal parti.
C'est bon.
Ah oui, ok, super. Merci Yann Mendé. Et donc, ce Barbie-là, il est voisin, vous l'avez sous les yeux en quelque sorte ?
Oui, c'était mon premier procès. À l'époque, je dessinais à la plume et à l'encre de Chine. Je débarquais, je ne connaissais rien à la justice. Et j'étais tout à fait à côté de Barbie, que je dessine tel que vous le voyez, avec ce visage terrifiant, glacé.
Un sourire, en tout cas, très particulier.
En tout cas, sûr de lui et absolument glaçant. Oui, je pense que le mot est glaçant. Et puis, ce que j'ai découvert très vite pendant ce procès, c'est les victimes, bien sûr, donc qui commençaient, dont je commençais à écrire les textes. Mais surtout, ce qui m'a énormément touchée à ce moment-là, c'est qu'il y a un moment du procès où Pierre Truche, qui était le procureur...
Alors, on va le voir.
Voilà, avec sa crinière blanche, s'adresse à Barbie et lui dit « Et si, maintenant, vos enfants étaient là, si vous parliez à vos enfants, à votre famille de ce qui s'est passé ?» Et ce jour-là, j'étais tout à côté de Barbie, je vois Barbie changer de visage. Et je dis toujours, j'y crois, voilà, un Barbie ému. Je parle toujours du fait que personnellement, je crois que derrière un homme, quel qu'il soit, et même dans cette terreur que représentait ce Barbie, il y a eu, pendant l'espace de 2 secondes, un Barbie touché. Bien entendu, après, il a repris son visage, j'allais dire habituel, mais je pense que c'était une façon de le découvrir avec cette parole formidable de Pierre Truche.
Et donc ça se passait le 5 juin 87 à 19h40. Il y a ce moment particulier d'un Barbie touché. Je dois dire que c'est une rareté.
Ah oui, et mais moi j'y crois beaucoup. Et l'avantage du dessinateur, c'est qu'on peut être partout, on peut être à côté des gens. Et à ce moment-là, rien n'est impossible, il suffit d'avoir la plume ou le crayon en alerte. Alors, c'est ça notre métier.
Là, on voit une autre chose, c'est que cette fois, il y a de la couleur, c'est de l'aquarelle. Et est-ce que ça explique la tenue assez moderne qui est la vôtre ?
Oui, alors j'ai découvert entre le Barbie et Papon, il y avait eu 10 ans, c'est 87-97.
Là,
entre...
c'est Papon, hein ?
Oui. J'ai dit Barbie ?
Non, bon, c'est moi, c'est bon, qui surenchéris.
En 10 ans, j'avais découvert l'aquarelle. Toujours assez tard, mais c'est pas mal de découvrir tard, parce qu'après, ça devient quelque chose d'extrêmement simple.
C'était là, pour quel journal ?
Ça, c'était pour Le Monde. Okay. Puisqu'après, j'ai beaucoup travaillé pour Le Monde pendant 15 ans ou 20 ans, je ne sais plus. Et ça, ce qui est intéressant là-dedans, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est l'inverse. Je montre le décor et je fais de la pédagogie. Oui. C'est-à-dire que ce dessin-là, il est fait pour que le lecteur, au début du procès, comprenne ce que va dire, en fait, le texte. Le texte, ce n'est pas moi, bien entendu. Mais là, je vous décris, lieu par lieu, qui est qui. Où est Papon ? Où est la justice ? Où est le dessinateur ? Vous avez vu que j'ai mis à un endroit, dessinateur, c'était Rhys. Rhys et moi, on a été les deux dessinateurs pendant tout le procès Papon. Et je trouve que ça, le lecteur qui va lire ça, quand il va lire le texte, le texte qui accompagne, va peut-être comprendre mieux, comme s'il était avec nous, ce qui se passe dans ce procès. Donc c'est typique.
Donc, vous arrivez flanqué de vos, voilà, pinceaux.
C'est très important, ça c'est mon armure, j'allais dire.
Et vous avez là vos pinces qui, oui, permettent d'accrocher les dessins.
Voilà. Mes pinceaux du 12, du 8, du 6. Mes, oui, crayons, des mines de plomb. Mes tailles crayons, s'il n'y a pas de tailles crayons, ça m'est arrivé de les oublier, c'est une cata. Et puis des mouchoirs, parce que la mouche... Et c'est mouillé, l'aquarelle. Donc, je dis toujours que ce qui est très important, quand on fait de l'aquarelle dans un procès, c'est d'avoir un séchoir à cheveux.
Mais vous... il faut une prise électrique.
Oui, mais vous pensez que quand j'arrive dans un lieu, la première chose que je regarde, où est la prise ? Vous pensez. Et ça, bien entendu, vous imaginez que je ne m'en sers pas pendant le procès, mais je demande toujours pendant une interruption, est-ce que je peux utiliser ? Et combien de fois ça m'est arrivé de devoir sécher le papier pour prendre le papier suivant ? J'ai toujours plusieurs blocs, mais n'empêche que ça, ce n'est pas une plaisanterie. Si on n'a pas ça, on peut se retrouver complètement coincé. Donc le but d'un gilet comme celui-ci, c'est d'avoir tout sur soi, de ne pas gêner le voisin, de ne pas gêner le dessinateur qui est à côté de soi, et d'être à la fois présente, mais je dis toujours aussi transparente. Dans les procès, je ne suis jamais en bleu clair, je suis en noir. On ne doit pas nous voir et on doit être libre de ce qu'on fait. Donc en ne nous voyant pas, on peut aller partout. Et ça, c'est une grande force.
Alors, il y a quelque chose d'assez commun, je dirais, dans l'engagement, c'est au moins d'y être. Et d'y être au long cours. Alors, Charlotte, par exemple, vous avez au long cours, pour le coup, suivi V13. Le procès qui a duré 10 mois, on reviendra sur le côté hors norme, mais il y a eu l'investissement d'y être tous les jours. Est-ce que ça a été compliqué de faire admettre à un grand média public cet investissement au quotidien?
Oui, c'était pas du tout une évidence au départ. Souvent, et malheureusement, hein, les moyens des médias et aussi la pléthore de procès fait qu'on pioche un petit peu. On essaye de cibler les audiences qui semblent être les plus intéressantes. On va à l'ouverture, à l'interrogatoire de l'accusé, au réquisitoire, etc. Avec ma consœur Sophie Parmentier, on avait plaidé auprès de notre direction le fait de pouvoir suivre à la fois le procès de Charlie Hebdo, des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et l'hypercachère, et qui a duré quand même 3 mois déjà, et ensuite V13, c'est pour vendredi 13, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça ce procès. On a plaidé la cause pour pouvoir y aller en plus à deux pendant 10 mois. C'était pas évident. Pour moi, c'était important. Je trouvais que je suis très attachée à la notion de service public de France Inter et je trouvais que c'était notre devoir d'y être. Et je suis très attachée aussi à une notion que vient d'évoquer Noël, qui est la pédagogie. Mmh. Je trouve qu'il est important de continuer encore et encore à faire de la pédagogie sur ce qui se passe dans les tribunaux, parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Et malheureusement, le peuple français a dans sa globalité, évidemment, sans caricaturer, une grande méconnaissance de ce qui se passe dans les salles d'audience. Ça prête lieu à beaucoup de caricatures, beaucoup de fantasmes. Certains plateaux télé ne nous aident pas en ce sens.
Merci.
Et malheureusement, d'autres font ça très bien, hein, mais certains à grande écoute, malheureusement, enfin, grand audimat. Oui. Et donc, voilà, à notre petite échelle, l'idée, c'est de pouvoir expliquer concrètement, sans caricaturer, ce qui se joue, parce que c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. C'est toujours au milieu de tout ça.
Il y a eu un grand élément de l'interférence, de la compréhension du système français, sont les feuilletons, les séries américaines, où on lit toujours à l'aune du fonctionnement américain le fonctionnement de la justice française.
Oui, ou à l'aune du fonctionnement de je ne sais pas quoi du tout, parce que parfois oui. Ça n'est ni américain ni français. Moi, je suis devenue insupportable dans la vie privée quand je regarde des séries qui traitent au judiciaire, parce que je bondis à peu près toutes les 2 minutes et mon compagnon est là, bon ça va, arrête. Mais malheureusement, il y a énormément d'erreurs et d'ailleurs, je leur en veux toujours parce que c'est pas très compliqué d'avoir des conseillers, mais enfin bon, c'est un autre débat.
Oui.
Mais oui, effectivement, y a... Bon, après, il y a aussi le jeu d'une série ou autre qui a besoin d'aller un peu plus au cœur des choses et peut-être apporter moins de nuances, mais néanmoins, ce qui s'y joue est important, c'est le reflet de notre société, pour V13 évidemment, parce que c'est quelque chose qui nous a tous concernés, hein. La statistique veut qu'un Français sur 7 a été directement touché par ces attentats, donc c'est énorme, mais pas que V13, sur plein d'autres choses, quand on va dans des procès de comparution immédiate, on y voit le reflet de ce qui se joue en ce moment, dans la société en général, que ce soit les problèmes des violences conjugale ou celle du trafic de stupéfiants, qu'importe, mais c'est toujours le reflet de quelque chose et donc c'est très important, je trouve, de nous, en tant que journalistes, raconter comment notre société, notre justice s'empare de ça et comment on juge, en fait. C'est au cœur de notre démocratie, en fait.
Alors, Lise, il y a quelque chose de très remarquable dans votre livre qui s'appelle « Les nuits que l'on choisit », qui sonne comme une sorte de confidence, d'intimité. C'est que, d'une certaine manière, la justice s'est emparé de vous. C'est comme une sorte de révélation. Vous n'allez plus au cours, vous séchez à un certain moment la fac et vous allez vous engager dans la chronique judiciaire. Il y a donc une partie prenante absolument considérable.
Ben, c'est vrai que ça m'est un peu tombé dessus, mais j'ai l'impression qu'au sein de la presse judiciaire, enfin, c'est en tout cas une histoire que j'entends souvent, c'est-à-dire que les gens y arrivent un peu par hasard en se disant oui, pourquoi pas, et puis après, en revanche, ils y restent et ils adorent ça. La matière criminelle est quand même une matière qui nous happe beaucoup.
Oui. Et pourquoi ?
Parce que je pense qu'elle touche à énormément de questions, c'est-à-dire que dans un temps et un espace réduit, on a accès, enfin en tout cas c'est l'impression que j'ai, on a accès vraiment à tout un pan de l'humanité. On va traiter de choses très diverses, que ce soit l'amour, le deuil, etc., mais qui ne sont plus des concepts, c'est-à-dire que là on a vraiment accès à des histoires de vie, des anecdotes, et c'est effectivement difficile de s'en passer parce que on comprend de mieux en mieux les choses et on comprend de mieux en mieux la vision du monde que certaines personnes peuvent avoir et par là même la nôtre. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'en fait, c'est un journalisme qui ne peut pas être complètement subjectif. Ça me paraît très compliqué, parce qu'effectivement, ce qu'on va choisir de retranscrire ou ce qui va nous toucher personnellement, bah, elle fait forcément écho à un vécu, à quelque chose qu'on a déjà entendu, etc.
Donc, dans la chronique judiciaire, il y a quelque chose de sa propre intimité, quand même. Et vos livres sont particulièrement représentatifs de ce point de vue. Vous écrivez à la première personne. Donc, il n'était pas concevable d'écrire pour vous sur ce domaine en dehors de cette écriture singulière.
En fait, ça a été très compliqué pour moi d'utiliser le jeu parce que justement, ce ne sont pas mes histoires. Ce n'est pas mon histoire de vie, etc. Mais c'est vrai que... comme on a une tendance quand même à prendre comme ça l'intimité des gens, je me disais que c'était un juste retour aux choses aussi de donner une part de moi-même et d'expliquer comment j'en étais venue à faire ça et ce qui me, enfin voilà, toutes les émotions qui me traversaient. Et surtout, je trouvais ça important parce que j'ai remarqué que c'était une question qui animait beaucoup les gens que je rencontrais et à qui je racontais mon métier. C'était de comprendre l'empreinte que ce métier avait sur nous. Au quotidien.
Toutes ces histoires d'horreur, est-ce que ça vous empêche de dormir ?
C'est ça la question. C'est une question que moi j'ai beaucoup entendue. Je ne sais pas si tu l'as beaucoup entendue. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui interroge les gens.
Et pour le coup, en lisant votre livre, on est baigné dans les pleurs, la douleur. Vous-même, à un certain moment, vous dites que vous avez fait appel à la cellule psychologique. Parce qu'il y a eu de l'effondrement dans l'air. Et donc, c'est ce que je trouve très bouleversant, d'ailleurs, dans ces livres, c'est cette part d'humanité généreusement et pas complaisamment racontée par vous sur ce qu'est aussi la justice quand on la fréquente comme vous le faites.
Alors, il y a quand même une proportion, enfin, une injuste.
Oui, non, oui.
Mais c'est-à-dire que on n'est pas nous-mêmes victimes ou on n'est pas victime de ces histoires-là. Et
certes.
C'est toujours très important de le repréciser. C'est-à-dire
absolument.
Que, voilà, on ne vit pas la douleur de la même manière du tout. En plus, le cadre professionnel est extrêmement protecteur parce
oui.
qu'on a une raison d'être là, un cadre dans lequel on y est et on sait pourquoi on est là. Donc, c'est très différent. Malgré tout, et pour moi non plus, le jeu n'était pas du tout évident dans mon bouquin. Et d'ailleurs,
allez.
Ce bouquin-là, à la base, n'avait pas vocation d'exister. C'était une conversation à trois qu'on avait choisi
oui.
de faire à titre purement privé pour pouvoir vider nos sacs.
On peut peut-être préciser ça.
Oui, c'est en fait l'idée. Moi, je couvre donc le procès des attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher. J'en sors pas du tout indemne et je vois arriver une montagne, c'est-à-dire V13, en me disant oula, si c'était déjà ça pour les attentats de janvier 2015, qu'est-ce que ça sera pour V13 avec plus de victimes, plus de jours, plus de tout en fait. Non pas que les horreurs soient hiérarchiquement comparables, mais il y avait simplement l'effet numérique de V13 qui, moi, me faisait très peur. Je voyais arriver cette montagne et je me suis dit comment je vais y arriver à titre personnel. Vraiment, c'était très égoïste. Il fallait que je trouve quelque chose pour moi. Et j'ai proposé à la fois à Arthur et à donc Arthur Desnouveaux et Xavier Nogueras, que je connaissais d'un point de vue purement professionnel, on se connaissait pas si bien que ça d'ailleurs, de converser à trois. C'est ce qu'on a fait hein, pendant les 10 mois de procès, on s'est envoyé des notes vocales sur un groupe WhatsApp, rien de plus basique, à chaud, parfois 3 fois par jour, parfois rien pendant 3 ou plusieurs jours, sans aucune contrainte autre que celle d'un respect mutuel qui s'est très vite établi et qui s'est surtout très vite établi entre eux parce qu'ils ne se connaissaient même pas au départ.
Allez.
Les premières fois où ils se parlent, ils ne se sont jamais rencontrés physiquement. Et puis, au bout de quelques mois, on se rend compte que finalement, ce qu'on se raconte peut peut-être avoir un intérêt aussi à être partagé, parce que ça a dit aussi des choses. C'est une lecture, hein, elle n'est pas du tout ni universelle ni unique, mais c'est une lecture de 3 traversées de ce procès-là. Et donc, on a décidé de le partager en faisant un podcast pour la radio et ce livre-là, qui est la retranscription de nos échanges. Et donc, effectivement, moi, ça a été un saut dans le vide que d'aller oser partager quelque chose d'intime. C'est pas évident quand on est journaliste, on raconte les histoires des autres, c'est assez confortable, en tout cas ça l'est plus que de dire moi je suis en train de craquer. mais j'ai trouvé que sur ce procès-là en tout cas, qui était si énorme, si bouleversant, et tous les acteurs vous le diront. Je veux Noël, en, voilà, je vois la voix hocher la tête parce qu'on a partagé les mêmes bancs de la salle d'audience, mais tous, que ce soit avocats, magistrats, policiers, voilà, c'est-à-dire que y compris tous les professionnels, indépendamment des victimes elles-mêmes, on a tous traversé quelque chose qui, je pense, nous marquera à vie.
Alors, on va y venir avec à nouveau avec Noël. On a parlé de ce procès hors norme, qui est une expression souvent galvaudée. Là, ça ne l'est pas. Je prends la propre rédaction qui est la vôtre pour le décrire. Donc, rappelons qu'il a duré 10 mois. 6 des accusés sont absents, 5 seraient morts, 11 accusés comparaissent détenus, 3 ont bénéficié d'une libération conditionnelle. Il y a 2400 personnes parties civiles. Il y a plus de 300 avocats qui les représentent. Et il y a 141 médias accrédités. Et on avait fait, vous vous en souvenez, une salle d'audience reconstituée dans la salle des pas perdus. Alors, ce que je voudrais demander à Noël, qui a un petit peu d'expérience, c'est... En quoi ça vous a paru, vous aussi, un procès hors norme ? Pour la dessinatrice, celle qui accompagne et qui saisit des choses que la caméra, car il faut rappeler qu'il il est filmé, qu'on pourra le voir dans un certain temps, en quoi pour vous ça a été une difficulté, un événement difficile ou pas ?
Difficulté, ça m'est totalement égal, ça m'est étranger. Mais ce qui était intéressant quand même, c'est qu'on avait 14, on avait 14 accusés.
Oui.
Donc ça, ça s'est jamais vu. On n'avait jamais vu, de toute façon, autant de jeunes, il ne faut pas oublier, par rapport au procès que j'ai suivi, ça c'est un procès de jeunes. Parce que Barbie, Touvier-Papon, c'était la guerre, c'était... Bon. Là, c'était extraordinairement... Maintenant, on avait tous entendu parler de ce procès. Et la quantité dont vous parliez faisait que rien n'était normal. Mais aussi bien au niveau des victimes qui étaient là, mais comme moi je ne me documente jamais, c'était pas pire. Ça, j'étais dedans du matin au soir jusqu'au cou. Et en définitive... Je suivais au fur et à mesure, donc on a bien compris que c'était un moment inouï, extraordinairement bouleversant, mais c'était pas plus difficile. Moi, je rentre dedans, je passe mon temps à ça, et puis surtout, la grande chance, c'est qu'on dessine. Quand on dessine, on restitue immédiatement l'émotion de ce qu'on vit.
Ah, Noël, par exemple, ce dessin-là, là, vous vous déplacez, vous êtes au fond de la salle et vous avez voulu rendre compte un peu de cet agencement de l'espace assez étonnant avec les écrans de télévision, la répartition en deux volets de bancs. Ça donne une idée de l'ampleur et de la manière dont le dispositif a été pensé.
Et puis pour moi, c'était le même lieu que j'avais dessiné en 1992, quand j'avais commencé à faire mon carnet du palais. Je me retrouvais chez moi dans un lieu différent. Et quand vous parlez justement du fait qu'il y avait partout ces panneaux qui permettaient de voir, ça c'était oui. Quelque chose de complètement différent. Et dans ce dessin, j'ai mis aussi la France, vous voyez la statue.
Oui.
Alors la statue de la France, je l'avais dessinée 30 ans plus tôt.
Vous dites qu'elle est bienveillante.
Alors, il y avait à la fois, vous avez vu la France, et de l'autre côté, il y avait une autre statue. Et ça m'a énormément touchée de penser que le 19e, puisque c'est 1826,
oui.
Regardait ce qui se passait à notre époque, écoutait les victimes, et je n'entrais pas dans ce lieu sans saluer ces femmes que j'avais dessinées. Bien des années plus tôt.
Mais donc, c'est vrai que pour reprendre, pardon, mais vous avez cité les mots d'Albert Londres avec la notion de chapelle.
Oui.
Et en fait, il y a un effet très cathédral, même, c'est comme ça qu'on l'a beaucoup dit, de cette salle qui a été construite, parce qu'elle fait 75 mètres de long, hein, c'est immense. Ouais. Quand elle est pleine, c'est, il y a 500 personnes à l'intérieur, donc c'est énorme. Et en même temps, comme ils ont gardé, et ça a d'ailleurs été très bien pensé, certains jalons, en fait, du vieux palais, les statues, les vieux poêles, qui sont encore les chauffages actuels, d'ailleurs.
Ouais.
Et en fait, il y a un un effet cathédrale laïque, en fait, quand on rentrait dans cette salle.
Tout à fait.
D'autant plus, vu la, voilà, l'enjeu de ce qui s'y jugeait, qui était assez impressionnant et assez saisissant.
Est-ce que cet agencement moderne a respecté un code important des salles de justice, c'est-à-dire l'inconfort? L'inconfort des bancs.
Mais pas parce pour nous.
Alors, non, Noël, Noël, j'ai le droit de le dire quand même. Noël avait un statut privilégié, voilà, exactement, mais tout à fait légitime, qui est que les gendarmes lui portaient sa chaise à l'endroit où elle le souhaitait. Hein, je me permets maintenant.
Vous avez raison, voilà. Puisque les gendarmes, je les avais dessinés, j'avais fait un livre pour eux, les carnets de la gendarmerie, et quand j'ai retrouvé les gendarmes, on s'est tombés dans les bras, on s'aimait, et là, je les dessine en train de jouer au Uno avant d'entrer dans la salle d'audience. Et c'était très touchant parce que on était semblables. Et je trouve que de montrer aussi les gendarmes, non pas se tenant au garde-vous, mais jouant au jeu de go, je trouve ça formidable. Ils sont comme nous. Et d'ailleurs, ils pleurent comme nous. Faut pas croire. Ils étaient jeunes et ils étaient très bouleversés. Donc j'ai voulu aussi dessiner, c'est-à-dire ce qu'on ne voyait pas, mais ce que vivaient les gens, en l'occurrence des gendarmes. Et ça, c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé.
Mais bon, sinon, pour les journalistes lambda dont je fais partie, on avait mal au dos. Hein.
Alors, ça, vous en parlez toutes les deux, sur cette raideur.
Des bandes assises.
Des bandes assises. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose de remarquable, parce que vous y passez un temps fou. Et donc, il y a un rapport au temps, à l'attention, qui fait que tout à coup, on oublie le mal de dos, en quelque sorte.
Bah, on n'oublie vraiment, mais j'aimerais bien.
Mais en tout cas, on est dans un temps hors du temps.
Oui, oui, complètement. Mais juste pour dire, pour les bandes assises, c'est marrant parce que, en fait, on remarque d'ailleurs les habitués, ils viennent avec leurs petits coussins. Donc, pendant un temps, j'avais une collection comme ça, parce que je me déplace à travers la France, j'avais une collection de petits coussins sur les différents bandes assises des palais de justice, quoi. Et il y en a qui sont ils arrivent carrément avec l'oreiller, quoi. Enfin, voilà. Mais oui, pour ce qui est du temps, effectivement, on est d'ailleurs, on parle de tourisme judiciaire parce qu'en fait, on ne voit jamais
la ville,
ou très peu, mais enfin, tout se passe. Enfin, les audiences commencent vers 8h30, 9h, elles peuvent se terminer très tard.
À la nuit, est concentré sur ce lieu, ce qui se dit, et voilà, l'essentiel de nos vies professionnelles, à ce moment-là, c'est là qu'elles se passent.
Oui, puis on est obnubilé par ce qui est en train de se jouer. C'est même pas simplement professionnel. Et du coup, comme on a tous vécu la même chose au procès, après, on aime bien se voir pour dire « Et toi, tu as pensé quoi de ce moment-là » Enfin voilà, pour débriefer. Donc oui, on est souvent loin de nos familles parce que soit on finit tard, soit on n'est même pas dans la même ville. Donc c'est un journalisme un peu particulier pour ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entraide et beaucoup de...
Ce qui est un facteur qui déstabilise un peu d'être loin de la famille, non ?
Non. Oh, ça nous fait du bien plutôt quelque chose.
Non, mais en plus,
j'ai dit une grosse bêtise.
Il y a deux notions de loin, parce qu'on peut être... Moi, j'ai fait beaucoup de procès terroristes et eux, ils se déroulent toujours à Paris, donc je rentre chez moi le soir, concrètement.
Oui.
Mais on peut parfois ne pas être très présent, très disponible intellectuellement.
Oui,
parfois,
voilà,
on rentre,
voilà,
en fait,
oui.
Et on a une journée
Exactement.
De... C'est difficile de restituer comme ça. Et même pendant V13, c'était très, très marquant. C'est-à-dire qu'on a tous, je crois, eu du mal à être en connexion avec nos proches, que ce soit nos familles, nos amis.
Ah.
On a tous raconté l'anecdote où on s'est retrouvé à un dîner du samedi soir avec nos meilleurs amis et on était complètement loin,
Absolument.
En fait. Parce que, toi, ça se passe bien. Comment vous voulez répondre à cette question? Vous venez de voir 200 personnes vous raconter l'horreur absolue. Ouais, ça va, quoi. Enfin, en fait, soit on commence à faire un monologue et on plombe la soirée et c'est terminé, soit on se retient et finalement on en parle plutôt avec les gens qui l'ont vécu. Donc oui, ça coupe aussi un peu les phases d'assises. Alors V13, c'était 10 mois, donc c'était particulier, mais même un procès d'assises, quand on le vit là pendant 4, 5 jours, 2 semaines parfois, il y a une forme un peu de huis clos comme ça qui est assez particulier, mais qui du coup génère une intensité des liens qui le partagent, que ça soit et les acteurs du procès, les professionnels, professionnels, les parties civiles et tout, qui est, je pense, aussi ce qu'on va rechercher, nous, le côté addictif un peu de cette matière-là. Je crois qu'il est aussi là-dedans. C'est-à-dire que dans l'horreur et dans les tréfonds de l'humanité, il y a aussi des fulgurances incroyables et des moments de toute beauté. En fait, c'est difficile à comprendre, mais c'est une réalité. Et moi, j'ai l'impression, parce que longtemps, je me suis interrogée sur non, mais j'ai un problème, moi. En fait, j'y retourne chaque jour et encore, et j'en veux encore, et c'est chaque fois horrible, et je reviens. Et en fait, non, j'ai fini par comprendre que ce que j'allais chercher, c'était pas l'horreur, c'est l'humanité qu'il y a derrière, en fait. Ouais. Et vrai, c'est pas un mythe, hein, c'est la réalité. Il y a quelque chose de très addictif là-dedans.
Oui, parce que, alors, on va aussi tordre le cou à une autre idée reçue, qui est que le monstre n'existe pas, et qu'on a affaire, et ça, vous le dites en toutes lettres, à des gens d'une banalité absolue. Et donc, c'est aussi, d'où la question du pourquoi, qu'est-ce qui leur a pris pour devenir monstrueux, faire un acte, commettre un acte monstrueux. C'est ça, l'addiction, c'est toujours rechercher cette réponse à du pourquoi face au geste monstrueux. C'est passionnant, ça.
Bah, en tout cas, moi, personnellement, oui, moi, c'est ce qui me fascine, cette bascule.
Oui.
C'est pareil, on pense toujours que ce sont des gens d'une certaine catégorie socio-professionnelle qu'on retrouve dans les palais de justice, tout, mais alors que pas du tout. Moi, j'ai déjà vu des accusés ingénieurs. Et c'est vrai que, alors, les parties civiles, les victimes disent souvent, pour moi, c'est un monstre. Bon, elles ont le droit, mais en revanche, c'est vrai que d'entendre, moi, j'ai déjà entendu des journalistes, mais qui ne faisaient pas ça à plein temps, les palais de justice, parler de monstre, c'est très choquant, parce qu'au contraire, quand on a vraiment arpenté toutes ces salles d'audience, on sait que c'est pas vrai. On sait qu'en fait, le monstre, la figure du monstre n'existe pas. Alors, c'est très confortable parce que ça permet de se tenir éloigné et de se dire, moi, ça ne m'arrivera jamais. Moi, je ne commettrai jamais cet acte. Mais en réalité, on n'en sait rien. Et ce qu'on entend souvent, les accusés, très souvent, ils le disent. Hein, ils disent, c'est pas moi. Je ne me reconnais pas. Ça ne me ressemble pas. Et tous les gens qui le connaissent disent la même chose. Et c'est ça aussi qui est assez beau dans ce métier, c'est le sens qu'on peut y mettre, c'est de se dire, on essaie aussi de comprendre avec eux. Mmh. Et parce que voilà, comme cette capsule temporelle est très intense, pour eux aussi, on va essayer de comprendre tous ensemble, à travers de l'enquête, des expertises de psy, etc., et des témoins, de comprendre comment ça a pu arriver.
Comprendre. Pardon.
Tout le monde peut tomber.
Tout le monde peut tomber, ouais. Ouais.
Mais même de Salah Abdeslam, par exemple, pour revenir au 13 novembre, docteur Zaghouri, qui est un éminent psychiatre judiciaire et qui fait beaucoup d'expertises, a repris cette phrase très connue, cette expression très connue d'Anna Arendt, de la banalité du mal. Et c'est vraiment ça. Hein. Salah Abdeslam, c'est incroyable à dire, mais vous le croisez dans la rue, il va peut-être même vous paraître sympa, en fait. Eu égard à l'horreur qu'il a fait au départ, c'est complètement surréaliste, mais c'est la réalité. Et effectivement, quel que soit l'acte le plus terrible, le plus monstrueux qui soit, la personne et l'homme qui est, ou la femme qui se tient dans le box, elle-même n'est jamais monstrueuse.
Juste un mot sur ce... Oui, c'est... Vos dessins sont notre fil rouge de la soirée. Hein, autant me révéler. Et donc, celui-là représentait quoi
Ça, ce qui était intéressant pour moi, c'est de montrer d'abord en noir et blanc. Vous avez vu que je n'ai pas mis de couleur en bas parce que je pense que les dessins... Moi, je veux guider la lecture de celui qui va être devant mon dessin. Ce qui m'intéressait, ça, c'est de montrer qu'il y avait beaucoup de victimes. D'abord, il y avait les badges, les verts, les rouges, les jaunes.
C'était donc, quoi ces badges?
C'était pour, vous allez pouvoir le dire.
En fait, vert et rouge, c'était pour les parties civiles, avec, selon qu'elles acceptaient ou pas d'être interviewées. Donc les rouges le refusaient et les verts étaient disponibles. Donc les médias pouvaient se permettre de les aborder s'ils le souhaitaient. Surtout les médias.
Interviewés par les médias.
Oui, audiovisuel surtout. Pour beaucoup, c'était une question d'apparaître sur les écrans de télévision, notamment. Et ensuite, on avait des codes couleurs par profession. Les avocats étaient en noir, les journalistes en orange.
Nous, on était orange.
Nous, on était orange, je crois que c'est tout. J'en oublie peut-être. Donc, on avait des badges.
C'est les codes.
On devait porter en permanence, puisque c'était une enceinte extrêmement sécurisée. Hein.
Oui.
On devait passer plusieurs filtres de sécurité avant d'arriver. Donc, on avait ce badge en permanence qui nous identifiait dans le rôle qu'on avait à ce procès, finalement.
mais là, dans ce dessin, ce qui est intéressant, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça s'est fait tout seul, parce qu'il ne faut jamais prévoir. Oui. En fait, j'ai installé tout ça, j'ai installé la statue, vous savez l'amour que j'ai pour les statues. Oui. Et puis tout à coup, j'ai vu arriver cette femme, qui était une victime extrêmement bouleversante. Et il y a quelque chose dans ce dessin, les Kleenex. Est-ce que vous avez vu que sur la table de la victime du milieu, vous avez une boîte de Kleenex. Pendant tout le temps où les victimes ont été là, il y a eu la boîte de Kleenex sur la table. Et de ce fait, j'ai allié, sans le savoir, cette victime, une autre victime qui était là et qui était accompagnée de quelqu'un qui traduisait son témoignage. Et je me suis dit, là, on a l'ensemble. On a les victimes, on a la statue du 19e siècle, on est dans l'actualité. On a là le texte de la victime, et il me semblait que c'était un ensemble qui racontait ce que nous vivions, nous, pendant ces
Mais je crois que ça va au-delà de ce que cela vous semblait, ça raconte effectivement, et donc objectif réussi, qui nous permet d'aller sur un thème qui est l'anonymisation. Il y a certaines victimes qui voulaient être anonymes.
Beaucoup, même.
Beaucoup.
Oui, beaucoup, oui. Beaucoup l'ont demandé. Je pense que beaucoup avaient... Enfin, pour des raisons qui leur appartenaient, certaines par peur de voir leur nom diffusé. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui peut nous sembler irrationnel quand on n'a pas vécu un tel traumatisme. Mais beaucoup de victimes, et ça, c'est vraiment propre à tous les attentats, ont été persuadées dans les jours qui suivaient que les terroristes allaient revenir pour les achever. C'est quelque chose que j'ai entendu mille fois, mais je l'ai entendu de victimes de Charlie Hebdo qui se retrouvaient dans une chambre d'hôpital avec des gardes du corps, etc. Et malgré tout, elles étaient persuadées de ça. De toute façon, le traumatisme génère aussi quelque chose d'assez irrationnel, parce qu'en l'occurrence, les frères Kouachi étaient morts, Koulibaly également. Mais donc, il y a quelque chose de l'ordre de la peur. Il y en a d'autres simplement de l'ordre de la volonté aussi de pouvoir continuer une vie sans être en permanence étiquetée victime du 13 novembre, parce que c'est quand même quelque chose qui refroidit un peu, quel que soit le cadre dans lequel ça sort. C'est pas toujours... On peut avoir envie d'exister en dehors de ça, et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Donc la plupart ont demandé à être anonymisés. Ça a été respecté, je crois, de manière unanime par les médias. Enfin, j'ai pas entendu parler, en tout cas, de personnes
de
problèmes. Voilà, la plupart du temps, on donnait un prénom. De toute façon, ça n'a pas non plus un intérêt fondamental que de donner un nom de famille. En termes d'information, ça ne change rien du pas grand-chose.
En revanche, il y a une question sur l'anonymat qui est des accusés eux-mêmes, y compris parfois du grand banditisme, qui s'est posé. Comment vous pensez cette question-là de ceux qui veulent, et parfois le journal Le Monde, à un certain moment, s'était engagé dans une politique d'anonymat où il ne s'agissait plus de citer les auteurs d'actes terroristes? Comment vous réagissez à cette question?
Oui, mais de souvenir, quand Le Monde le faisait, c'était dans une démarche pour ne pas leur prêter trop d'attention.
Oui,
et voilà,
absolument.
Pour pas qu'ils ne figurent comme ça.
Tout à fait.
Alors que nous, en tant que journalistes, c'est vrai qu'on va plus se poser la question du droit à l'oubli. Enfin, j'imagine. Et je pense que... Enfin, j'ai pas de bonne réponse à ça, au droit à l'oubli, mais même le droit à l'oubli pour les victimes, c'est-à-dire qu'elles ont le droit aussi, au bout d'un certain temps, d'en avoir marre, qu'on leur parle tout le temps de ça et de...
Bien sûr.
Bon, voilà, pour certaines, ça, c'est propre à chacun et selon l'éthique de chacun et ce qui nous semble bien sur le moment. Je sais que moi, par exemple, les personnes qui sont jeunes, qui vont témoigner, je mets pas leur nom de famille, ou parfois même je vais changer le prénom quand il est très spécifique, parce que je me dis aujourd'hui avec Internet, c'est on cherche le nom, prénom de la personne, j'ai pas envie que son employeur découvre ce pan de son histoire. Donc je pense que c'est une question qu'on aura probablement à la presse judiciaire,
oui, qu'on a déjà eu récemment sur une accusée de terrorisme notamment qui réclamait son anonymisation eu égard au fait que ses enfants étaient scolarisés par exemple et qui portaient le même nom qu'elle, et c'est vrai, et ça a suscité beaucoup de débats. Tous les médias n'y répondent pas de la même manière. Il y en a qui ont des règles très établies, par exemple l'AFP décide que dès lors que c'est pendant la phase d'instruction, on ne donne pas le nom de famille. À partir du moment où le procès d'assises commence, le nom de famille est donné. Mais là, moi, pas plus tard que tout à l'heure, là, j'étais au palais de justice pour couvrir un procès d'un règlement de compte dans le grand banditisme, et il y a deux accusées qui sont des femmes, et il y en a une qui est venue me voir, la sœur d'une qui est venue me voir en me disant s'il vous plaît, vous donnez pas le nom. Ça nous arrive très régulièrement. Moi, je n'ai pas de règle absolue. J'essaye de réfléchir aussi en ce que ça sert en termes d'information et enfin, voilà, de trouver un juste milieu entre ce que ça peut peser sur l'accusé et ce que ça peut servir en termes d'information. Évidemment que je ne vais pas anonymiser Salah Abdeslam, ça n'a aucun sens pour personne. Et son nom est déjà ultra connu. Et, je vais pas la, et même dans une volonté, parce que ça m'a été posé comme question, de dire vous lui livrez une tribune en donnant son nom. Oui, très bien, il y a 14 accusés. Je ne vais pas l'appeler l'accusé numéro 1 et l'accusé numéro 23 parce que ça n'a plus de sens. Donc il y en a pour lesquels ça paraît évident, d'autres pour lesquels, par exemple, récemment, j'ai couvert le procès de l'incendie de la rue Erlanger. Oui. Voilà, avec cette femme qui a des gros problèmes psychiatriques et qui a mis le feu volontairement à son immeuble, mais sauf que ça a causé 10 morts. Et la question s'est posée de savoir si on l'a anonymisé ou pas. Moi, j'ai choisi de, à l'antenne, donner son nom de manière orale, parce qu'à l'antenne, ça passe.
Oui.
Voilà. Et par contre, je ne l'ai pas écrit. Voilà, j'ai trouvé cet entre-deux qui me paraissait assez juste entre le fait qu'elle était accusée de faits graves devant la cour d'assises et le fait que ce qui passait à l'antenne ne resterait pas ad vitam aeternam quelque part. Et donc, à l'écrit, j'ai juste mis la première syllabe de son nom. Mais voilà, parce que ça m'a semblé juste, peut-être que je déciderai d'autre chose sur un autre procès. Oui. On fait un peu avec notre part et d'humanité et de nécessité d'informer et de, enfin voilà, un peu de tout en fait. Hein.
Difficile d'avoir une règle de principe.
Une règle de conduite, ouais.
Alors, d'autant que dans les enquêtes sur le terrorisme, on se rend compte quand même d'un monde parfois très lié, avec des gens qui ont des vies qui se sont croisées. Et donc, on raconte aussi comment la France a peu à peu vu naître sur son terrain, sur son territoire, des gens qui ont été convaincus par le djihad, par la nécessité de porter le fer, et de voir comment tout ça s'est noué. C'est un élément d'info, ça.
Oui, mais il faut aussi voir ce qu'il y a derrière le mot terrorisme, en fait. Parce que c'est quand même devenu le mal du siècle, évidemment. Hein, et l'idée n'est pas du tout de minimiser quoi que ce soit. Mais en fait, quand on est dans des dossiers terroristes, on parle d'une infraction qui s'appelle l'AMT, l'Association de Malfaiteurs Terroristes, qui est l'infraction derrière laquelle se cachent tous les accusés de terrorisme. Là, derrière ça, il peut y avoir un Salah Abdeslam, il peut aussi y avoir quelqu'un qui a concrètement amené un copain à l'aéroport qui allait se rendre en Syrie et parfois il n'était pas tout à fait au courant qu'il allait se rendre en Syrie. L'idée encore n'est pas de minimiser les faits, c'est juste de dire qu'il y a un panel de réalité derrière cette infraction qui est
large,
énorme. Et donc on a des gens qui parfois ne sont même pas engagés eux-mêmes, ne sont pas eux-mêmes radicalisés, parce que cette infraction, pour condamner quelqu'un au nom de cette infraction, la jurisprudence n'implique pas qu'il soit forcément radicalisé, elle implique qu'il ne pouvait pas ignorer la radicalisation de celui qui l'aide. Et il ne peut pas ignorer, ça ne veut pas forcément dire non plus qu'il la connaît de manière formelle.
Oui.
Donc, tout ça pour dire que derrière la réalité de ce qu'on qualifie aujourd'hui de terroriste, il y a des réalités qui sont très différentes. Et peut-être que celui qui, effectivement, sans être lui-même radicalisé, va amener son copain à l'aéroport, peut-être que cet homme-là qui va purger sa peine, le débat n'est pas là, on peut peut-être imaginer qu'il puisse avoir une autre vie derrière et un droit à l'oubli sans que ça soit un scandale absolu, à la différence d'un Salah Abdeslam, d'un Tyler Villus, de mille autres qui sont engagés et qui vont revendiquer ça et qui surtout vont avoir du sang sur les mains, ce qui est quand même très différent. Donc, il y a ça aussi. C'est pour ça que la règle absolue, elle ne peut pas exister, que ce soit dans le terrorisme ou dans d'autres choses. C'est que, on en revient au début de ce débat-ci, c'est que c'est jamais aussi clair, aussi net, aussi franc que ce qu'on peut imaginer. A priori, rentrer dans une salle d'audience, c'est découvrir la multitude de nuances qu'il y a derrière une affaire, en fait.
Mais ça renvoie beaucoup, donc...
Je n'ai pas du tout répondu à votre question.
Non, mais c'est très bien, c'est parfait. Il ne faut surtout pas répondre. Mais au moins, il y a cette idée que ça renvoie, d'une certaine manière, au jugement qu'on se fait aussi, en votre âme et conscience, si j'ose dire, pour utiliser une vieille expression. Il y a une autre question qui s'est posée aussi dans... La révélation des choses, c'est montrer ou pas les images des massacres, les images d'horreur. Je me souviens avoir été là au moment où les images tournées par le journaliste du Monde ont été diffusées, ça a provoqué un effet glaçant. Et encore, ce ne sont pas des images d'horreur, mais les cris sont des cris horrifiés. Et donc, il y a eu cette question qui a été aussi posée, qui se pose d'ailleurs même pour la couverture d'une guerre. Est-ce qu'on montre toutes les victimes? Lise, qu'est-ce que vous en pensez de ça, de l'image en tant qu'élément arrivant dans la salle d'audience, à charge ou à décharge?
Enfin, ça, là aussi, ça dépend vraiment du président ou de la présidente, par exemple. C'est-à-dire qu'il y en a qui, d'entrée de jeu, disent « Alors, je préviens les parties civiles, à un moment donné, on va diffuser les images. » Et puis d'autres, là, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un procès à Avignon, où en fait, c'était une petite fille qui avait été tuée par son père, noyée dans le Rhône. Et un avocat demandait à ce qu'on montre les images, et le président a coupé court tout de suite en disant « Il est hors de question que je montre cette horreur. » Donc, là encore, parce que la justice est humaine et parce qu'elle est rendue par des hommes et des femmes, comme tout à chacun, chacun va faire avec son éthique, sa sensibilité qui lui est propre et ce qu'il estime juste.
Effectivement, la question s'est posée. Moi, je me souviens que la première fois que je vois vraiment ce débat dans les affaires, notamment terroristes et au procès des attentats de Mohamed Merah, où c'est réclamé par certaines parties civiles, elles-mêmes, sachant que les images en question, c'est les images d'une GoPro qu'avait Mohamed Merah sur son torse au moment où il commet l'attentat de l'école juive. Sachant qu'il y a l'une des fillettes qui a été tuée à bout touchant, ça vous donne une vague idée de l'horreur absolue que peut représenter ces images. Il y a eu tout un débat pour savoir si elles devaient être diffusé ou pas à l'audience. Finalement, il a été décidé que non, mais qu'elles étaient mises à disposition de la cour d'assises qui pouvait les voir dans un cadre plus restreint. La question est revenue évidemment au moment des attentats du 13 novembre. Et alors là, elle est revenue avec d'autant plus de force qu'il y avait eu le préalable des attentats de Charlie Hebdo où les images ont été diffusées et elles ont été très mal amenées. Et je pense qu'on peut le dire, parce que ça fait...
Quelles images, Charlotte ?
Les images de la rédaction. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéosurveillance au sein de la rédaction. Enfin, il y en a une dans l'entrée, mais pas dans la salle de rédaction où l'essentiel de la tuerie se passe. Mais il y a les images réalisées par la police scientifique dans la foulée de l'attentat. Ce qui se passe ce jour-là, c'est un lundi matin, un jour qui est censé en plus ne pas évoquer ça à ce moment-là. Il y avait un autre témoin prévu. Les procès d'assises sont toujours comme ça, qui font que le planning peut parfois être bouleversé. Et je m'en souviens précisément parce que moi, j'arrive ce lundi en me disant « Bon, alors aujourd'hui, ça va encore aller, c'est demain qu'on rentre dans le dur, etc. » Bon, ben, raté. Je suis arrivée à 9h. À 9h30, on avait un enquêteur à la barre qui commence à nous expliquer les premières constatations dans la salle de rédaction. Et ils avaient fait quelque chose. Alors, ils avaient fait les choses de manière très, très professionnelle. Je ne sais pas si vous voyez quand on fait un plan sur Google Maps et qu'on demande la vision en 3D, là, avec les petites flèches, on peut avancer dans la rue et on voit bien les façades des maisons. On avait exactement la même chose au sein de la salle de rédaction de Charlie Hebdo. Et donc, on s'est promené comme ça dans la salle jusqu'à arriver à cette salle de rédaction qui n'est pas très grande, dans laquelle je ne sais plus combien de corps se trouvaient, mais je crois que c'est 8 ou 9, pendant lesquels c'était diffusé donc, sur un écran à peu près de cette taille-là, dans une salle d'audience, pendant de très très longues minutes, avec la description des impacts de balles corps par corps. Enfin bref, vous imaginez vraiment l'horreur absolue, dans une salle qui était pétrifiée, victime comme professionnelle. On a poursuivi avec les images que pourtant moi, par exemple, j'avais déjà vu 100 fois, ce qui était celle des vidéos amateurs de l'assassinat d'Ahmed Merabet, le policier qui se fait tuer quelques centaines de mètres plus loin. C'est des images que j'ai vues 1000 fois parce que j'avais extrait le son pour en mettre certains morceaux dans mes reportages radio. Et malgré tout, quand ça résonne dans une salle d'assises, avec toute la tension, avec les parties civiles qui sont en train de s'effondrer à côté de vous, enfin bref, on a tous fait des bons terribles au moment des tac-à-tac des Kalachnikov. Et donc, il y a eu un précédent, parce qu'on s'est rendu compte que ça avait été très mal amené, que tout le monde en est ressorti complètement sidéré et liquéfié. Et donc, ces débats ont eu lieu à nouveau au moment du procès des attentats du 13 novembre pour la bande-son du Bataclan, puisqu'il y a un enregistreur qui a tout capté pendant 2 heures, qui était l'enregistreur d'un spectateur qui est resté dans la salle. La question s'est reposée au moment de la vidéosurveillance de l'attentat de Nice avec le camion qui fonce dans la foule. Les choix à chaque fois ont été faits de diffuser, globalement, mais après beaucoup de débats quant à savoir si c'était d'utilité publique, si c'était important pour les débats judiciaires, etc. Et puis avec moult précautions envers les victimes pour dire, voilà, venez si vous estimez que c'est nécessaire pour vous, sinon restez chez vous, etc. Ce qui, je pense, est un compromis assez juste, en fait. C'est-à-dire que la victime, pour qui c'est nécessaire, parce que pour certains, ça l'est. Beaucoup m'ont expliqué que c'était nécessaire pour elle de réobjectiver
Oui.
Leur traumatisme. Parce qu'en fait, le traumatisme est tel que parfois elles se sont demandé si ce qu'elles avaient vécu était réel. Il y a en plus une distorsion temporelle très forte quand on est victime. On a l'impression que certains moments durent une éternité alors qu'en fait elles se rendent compte que ça a été sur un temps très court et inversement. Et donc ça peut être nécessaire pour une victime de voir ça. Ça peut évidemment être nécessaire pour des accusés aussi de voir ça parce que c'est reconfronté à l'horreur des faits auxquels ils ont parfois participé sans y être directement impliqués. Enfin, ça peut avoir beaucoup de vertus, mais effectivement. Effectivement, moi, je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de prudence, beaucoup de précautions et de mise en garde, en fait.
Alors, juste deux remarques à ce sujet. À Nuremberg, par exemple, on a montré à la cohorte des nazis qui étaient là les images des camps. Donc, voilà. Et puis, deuxième point, ce qui est intéressant, c'est de voir que le monde judiciaire se pose les mêmes questions que le monde médiatique au moment où nous disposons aussi des images. Et donc, il s'agit de savoir ce qu'on en fait dans la salle d'audience comme ce qu'on en fait pour les téléspectateurs ou le public qui regarde les vidéos sur les plateformes. Juste dire aussi une dernière chose, c'est qu'au XIXe siècle, il y avait une revue qui s'appelait la Revue Bleue, qui, en 1892, a accusé les journalistes de faire la promotion du crime et qu'il fallait arrêter. Ils ont lancé un grand sondage à l'époque et on a vu des hommes comme Zola ou des horreurs comme Drummond, antisémite notoire, répondre aux questions de ce sondage qui évoquait la responsabilité des médias sur le fait de parler ou pas du crime et de le décrire. Alors, ce que je voulais vous demander, Noël, c'est que là, on est dans le domaine de l'image, c'est votre domaine. Comment vous pensez ça, cette nécessité de voir l'horreur? Pour vous, il n'était pas question de la dessiner.
De toute façon, quand vous avez parlé des bruits, moi j'ai dessiné, là je ne l'ai pas, j'ai dessiné les gens de dos qui tournaient la tête les uns avec les autres. C'était bouleversant parce que je ne pouvais pas ressentir les bruits, vu que je ne les avais pas vécus, mais on les sentait avec ceux qui les écoutaient. C'était bouleversant. Et je trouve que le dessin de ces gens de dos qui se regardent exprime, à mon avis, totalement ce que disait Arthur dans son texte, à mon avis.
C'est-à-dire, vous dites, les gens qui, au moment de la diffusion de ces sons, se regardaient, étaient dans une communauté de sidération, de
douleur. Et moi qui étais là en train de les dessiner, on le recevait en plein estomac. Hein. Ce qu'on entendait, moi je ne l'avais pas entendu, mais il est évident que ça passait au travers de ceux qui les écoutaient. Ça, je me souviendrai toujours de ce dessin-là. Il n'y avait presque rien et on s'en prenait plein la gueule. Je m'en souviens. Ça.
Alors, ce dessin, il montre la modernité de la saisie.
Voilà. Ça, j'y tiens beaucoup parce que voilà un dessin qui est infaisable par la caméra vu qu'on était dans le noir. J'étais dans le noir. Je monte l'escalier et surtout, je voulais montrer que c'était là que ce procès était enregistré. Oui. Ça, c'est une image qu'on ne voit jamais. Je monte, bien entendu, j'ai passé plus de 2 jours avec eux. C'était formidable. Et regardez bien dans ce dessin, j'ai laissé en blanc exprès tout le premier plan, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir toute la salle en entier. Vous avez sur les écrans le président qui parle, donc il y a une petite, là ça y était peut-être pas, mais il y a un petit rond rouge en bas de l'écran. Ça m'a été expliqué par ceux qui étaient là et qui enregistraient pour l'histoire les 10 mois de ce procès, et c'est une façon de faire entrer le lecteur dans un monde qui ne verra jamais en vrai, mais que j'ai vu et que je vais transmettre. Et ça, j'y tiens beaucoup à ce dessin. C'est là que ça se passe, au niveau de la transmission.
Il y a quelque chose que j'ai trouvé très bouleversant dans votre livre. C'est, vers la fin, le fait que, finalement, vous trois qui vous connaissiez ou pas, vous formez une sorte de communauté. Et ce que dit Arthur, où il dit que finalement cette longueur, cette intensité de ce moment collectif va peut-être former un souvenir plus fort que l'attentat lui-même. Alors ça, je dois dire que c'est tout à fait étonnant à lire. Et il va plus loin. Après, il dit qu'il y a finalement une sorte de lien, et pour cause, qui s'est installé entre lui et Salah Abdeslam.
Alors, je ne veux pas paraphraser ce qui... C'est pour ça que j'hésite un peu. Je ne veux pas...
Je peux lire l'extrait,
oui,
si,
oui,
vous,
oui,
voulez.
Si vous voulez, effectivement. C'est peut-être
Les larmes et les excuses de Salah Abdeslam me remuent beaucoup plus que ce que j'aurais cru. Il a utilisé le mot approprié. Celui du lien qui nous unit, nous unira toujours. Quand il présente des excuses et demande pardon, je pense qu'il a une forme d'égoïsme. Il a son chagrin, il a envie de réussir à se pardonner. C'est d'ailleurs par ça qu'il devrait commencer. Nous, on a appris à se pardonner, d'avoir survécu quand d'autres sont morts. Lui, il va falloir qu'il se pardonne avant de demander le pardon des autres. Toujours est-il qu'il a fait du chemin. Et un chemin qui me semble cohérent, mais quand vous serez tous partis, Xavier, Charlotte et tous les autres professionnels, nous, les victimes, on restera avec ce lien à démerder. Il n'y a pas d'autre mot avec Salah Abdeslam. J'ai un lien avec ce type. Le fait qu'il ait compris qu'on était des deux côtés d'une même pièce suffit à créer une relation de laquelle on ne peut pas sortir.
Mais quand on parlait des moments d'humanité, en fait, tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on voit dans les procès aussi, et qui surprend, et qui, pour certains, dérange, et qui interpelle, on peut en mettre beaucoup comme ça, c'est les ponts qui existent aussi de part et d'autre de la barre. Ils n'existent pas toujours, et certains voueront une haine absolue aux accusés de leur procès ad vitam aeternam parmi les victimes, d'autres pas. Et c'est pas faire de l'angélisme que de le dire. Moi, je l'ai vu au procès, encore une fois, au procès, par exemple, des attentats de janvier 2015. J'ai vu certaines parties civiles, certaines victimes de Charlie Hebdo, aller s'approcher des box pour parler à certains accusés et avoir une connexion qui existait. Et l'idée, c'est pas d'être dans une forme... Enfin, je sais même pas si c'est de l'ordre du pardon ou pas, c'est de l'ordre d'un moment donné d'avoir besoin de communiquer d'être humain à être humain. Ça existait de nouveau au procès V13, c'était un peu plus difficile parce que très concrètement, les mesures de sécurité faisaient que le prétoire, donc qui est vraiment la zone où il y a le box, et les avocats nous étaient interdits, sauf aux dessinateurs, encore un privilège de Noël. Hein. Mais n'était pas... Voilà. Oui, ça en fait beaucoup, je suis d'accord avec vous. Mais était interdit aux victimes, donc il n'y a pas eu de lien complètement direct, mais je sais qu'il y en a eu par avocat interposé. Ouais. Je le raconte à un moment donné, très vite, hein, la première semaine, il y a un soir où on finit très très tard, ouais. Il est 22h, on n'a toujours pas fini l'audience, etc. Et tout le monde a faim, en fait. Et il y a des victimes qui font passer aux accusés des barres chocolatées, ouais. Et qui vont leur avoir dans le box. Ça a existé au procès de Sida Meglam. Alors là, je vous parle des procès d'attentats, mais ça existe aussi dans le droit commun. Il y a des moments donnés où il y a des jonctions qui se font entre les familles des victimes ou les victimes elles-mêmes et les accusés, et ça existe, et la justice permet ça aussi. Alors, c'est de l'ordre de la justice restaurative, mais ça existe aussi en marge des procès pénaux.
C'est ça la catharsis, pour utiliser un gros mot ?
Peut-être. Et encore une fois, chacun est évidemment libre de le faire. Et l'idée n'est pas non plus de ne dire que c'est le seul chemin possible et que toutes les victimes, parce qu'il y a aussi parfois une injonction à la résilience,
certes.
Qui, je pense, est assez dangereuse et absolument pas nécessaire et très facile à faire quand on n'est pas victime soi-même. Mais ça existe, en fait. L'idée, c'est simplement de dire que si certaines se construisent et ont une haine qu'elles n'arrivent ou qu'elles ne souhaitent pas dépasser, c'est leur droit le plus strict, d'autres ont ces chemins-là et c'est aussi des chemins qui peuvent être surprenants, mais qui en disent aussi long sur notre humanité et notre société, en fait.
Alors, je voulais citer Lise, parce que...
Élise.
Excusez-moi. Non, en plus, je sais que...
C'est un sujet.
Oui, c'est un sujet, puisque vous y faites allusion dans le livre, où vos Redchefs, les affreux Redchefs, ont voulu vous baptiser Elisa. Hein, c'est bien ça ?
C'est ça.
Alors que... Alors, la citation est la suivante. « Tout au long de mes études, je m'étais concentré sur les histoires. Souligné en rouge, un vers de Virgile tiré du livre 2 des Géorgiques, « Felix qui potuit rerum conoscere causas », comme ça je peux montrer, je peux lire le latin, « Heureux celui qui a pu pénétrer la raison des choses, je descends précipitamment l'échelle du grenier », Je sais quelle question poser à l'ami d'Eva Bourceau, qui est quelqu'un qui est dans une affaire judiciaire, que vous souhaitez rencontrer. Il faut m'enquérir des petites choses, c'est en regardant dans les petites choses que l'on voit les grandes. Est-ce que ça, c'est pas une des nécessités, une injonction totale du métier de chroniqueur judiciaire que de respecter les petites choses?
Ben, c'est vrai que les détails sont très importants pour nous. Là, par exemple, quand Charlotte racontait l'histoire des barres chocolatées, ça m'a rappelé aussi un accusé comme ça qui, à un moment donné, s'effondre dans le box, il pleure. Et en fait, personne n'a de mouchoir. Et en fait, celui qui se lève, c'est le père de la victime, le frère de la victime, qui se lève et qui lui tend un mouchoir comme ça. Et c'est un détail, mais que j'ai raconté parce que ça montre... Il a fait un geste banal parce qu'en fait, il voyait quelqu'un pleurer, qui avait besoin d'un mouchoir. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est noué. Et voilà. Et donc, c'est vrai que je pense que c'est comme ça qu'on comprend le mieux les choses. C'est à travers les petits détails, comme je disais tout à l'heure, à travers les anecdotes, à travers... C'est comme ça qu'on se les approprie, en tout cas.
Et alors, pour se les approprier... il faut avoir une vigilance de tous les instants, parce que ce petit moment peut vous échapper, et c'est ce qui fait le moment de vérité, en fait.
Ben, après, moi, je trouve qu'on est moins sur nos gardes que les avocats. Je trouve que les avocats, c'est encore un autre travail où vraiment, comme ils doivent réagir à la moindre petite phrase, ils doivent vraiment...
Eux sont des chasseurs, quelque part.
Oui, enfin, nous aussi, mais bon, nous, si jamais on baisse un peu la garde, c'est quand même moins important que pour eux. Donc oui, je ne sais plus quelle était votre question. Si c'était ça, si on chassait...
Non, c'est bien vu.
C'est bien.
Charlotte?
Mais je pense qu'en plus, ces petits moments-là, pour rebondir, en fait, c'est aussi ceux qui vont réancrer dans le réel, parce que ce sont des moments, un mouchoir, etc. C'est des choses que l'on vit, nous, dans notre quotidien. Et en fait, ça fait... les cours d'assises, c'est quand même des actes, et fort heureusement, d'ailleurs, qui sont toujours extraordinaires, puisque c'est le plus grave, les actes les plus graves qu'on ait à juger en France, le criminel. Et donc, ça ramène aussi, c'est ce qui s'y joue, à quelque chose de plus compréhensible, je pense, pour le... Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'imagine quand je le raconte, soit à la radio, soit en live tweet ou autre. C'est aussi de dire regardez, c'est pas si loin de nous, en fait. C'est pas si éloigné de parfois nos réalités, et ça permet de parfois d'avoir une meilleure compréhension des choses, une meilleure appréhension des choses.
Certes, de garder cette humanité qui fait le journalisme. Alors, ce qui fait aussi le journalisme, c'est la concentration sur les sujets que vous traitez. Est-ce que vous êtes redescendu dans le réel de tout ça? Vous vous sentez comment? Un peu comme ça, sur la ligne de crête, toujours en permanence, au prochain procès, de voir la prochaine comédie humaine au sens tragique, en fait, du terme. Il n'y a pas de... Moi, je trouve que le chroniqueur judiciaire est quand même dans une perméabilité très singulière, peut-être par rapport à d'autres journalistes. Je pense aux spécialistes de l'économie ou autres, et je caricature peut-être un peu. Il y a quand même un métal particulier, non, de la chronique judiciaire, du récit.
Sans doute, parce qu'effectivement, c'est une matière qui atteint, c'est une
vos
matière
fêlures.
Qui vient. Et puis moi, il y a mille moments où dans une vie quotidienne, il y a quelque chose qui vient me rattraper et qui agit comme un flash d'une affaire ou d'une autre. Bien sûr que ça arrive très souvent. Je pense que j'ai des lectures des choses qui sont peut-être un peu différentes d'autres personnes. Je pense que je parle évidemment sans le caractère terrible des choses, mais je parle à mes enfants probablement de choses que d'autres parents ne parlent pas, en essayant d'aseptiser, hein, je vous rassure, mais probablement que j'ai un prisme, qu'on a, parce que je crois que je suis pas du tout la seule, hein. Mais après, encore une fois, ça reste un métier malgré tout, et donc on coupe aussi. Il y a une distance liée au métier, comme mille autres métiers avec des réalités qui sont difficiles. Hein. Un légiste, un psy, je sais pas, il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs, un policier dans certaines affaires. Enfin, je veux dire, on n'est absolument pas les seuls à avoir cette prise-là avec une réalité difficile. Donc forcément, on coupe. On va aussi, vous parliez des bistrots, on va aussi parfois vider notre sac en buvant un coup avec d'autres personnes qui sont concernées et en faisant des blagues. Complètement sombre, un peu comme font les médecins, je pense. Voilà, ça permet de relâcher la pression et puis ça va. Enfin, je veux dire, il y a aussi quelque chose qui fait que ça nous arrive pas directement à nous et donc ça nous atteint pas systématiquement.
Xavier, lui, avait besoin d'un petit verre de whisky le soir.
Ça, je lui laisse.
Voilà.
Moi, j'aime pas le whisky, hein, je tiens.
Non, mais c'est vrai.
Ma bouteille d'eau est là.
Non, mais ce que dit Charlotte est très juste, mais c'est vrai que moi, par exemple, ça a changé ma façon d'être au quotidien, parce qu'en fait, je sais tellement qu'il y a toujours deux versions. Il y a toujours plus que ce qu'on nous raconte. Ah oui. C'est que je suis en permanence, mais du coup, même personnellement. Et c'est-à-dire que parfois, un ami va me raconter une histoire en me disant « Mais tu te rends compte de ce qu'il m'a fait ?» et tout. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de dire « Oui, mais pourquoi il dit ça exactement ?» j'ai envie d'avoir sa version, mais toi, qu'est-ce qu'il en dit ? Et ça l'agace, parce qu'il dit « Mais là, j'ai envie que tu sois de mon côté. » Je dis « Ah oui, pardon. » Mais en fait, c'est vrai que j'ai quand même toujours ce truc de me dire « Les gens ne se lèvent pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais être vraiment un sale type. » Et ouais. Non, il y a toujours, enfin, les gens ont toujours une bonne raison de le faire. Alors après, on l'estime juste ou pas, mais voilà. Donc moi, c'est un peu le travers que j'ai développé, toujours à vouloir savoir exactement tout ce que tout le monde pense et quelle est sa version de l'histoire. Mais je pense que pour d'autres journalistes, c'est autre chose aussi. Voilà.
Noël, qu'est-ce qui fait que vous avez tilté à ce point-là avec le monde judiciaire?
Alors, ça me passionne. Je ne peux pas vous dire, moi, ça me met dans... Et puis, en plus, j'oublie totalement la fatigue. Je peux dessiner 10 heures de suite, je m'en fous. On est là pour transmettre, nous, les dessinateurs. Et alors, la transmission de ce qu'on voit, de ce que ressent, je dis toujours, je suis faite pour ça. Donc, je n'ai pas de limite à ce que je peux dessiner. J'ai fait des tas de reportages, en plus. J'ai dessiné l'hôpital, j'ai dessiné la mort, j'ai dessiné la naissance. Mais c'est l'humanité des gens... Et des choses, je ne me lasse jamais, ça me passionne et il n'y a pas de limite. C'est sincère. Alors là, et quand je vous écoute, j'ai l'impression d'y retourner. C'est ça qui est génial.
Noël, si je pouvais, je vous embrasserais. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Charlotte, Élise. Alors, place, non pas aux accusés, mais à ceux qui pourraient nous interpeller et qui n'hésitent pas à poser des questions. Ici, elles sont bonnes à prendre, à entendre et à trouver réponse. Dites-nous. Monsieur.
Merci. Moins deux questions sur... Je vous ai entendu dire, vous avez besoin de vous rencontrer ensuite pour discuter de tel que j'ai compris ce que vous avez dit pour écrire le livre. C'est ce que dit aussi Emmanuel Carrère. Alors je me suis demandé... Si vos rédactions, les directions d'information, n'organisaient pas des choses pour vous aider, et s'il existe l'association des journalistes judiciaires, si celle-ci y réfléchit ou pas. Pour ça, c'était la première. Et la seconde, concernant le 13 novembre ou Charlie Hebdo, au moment des faits, il y a eu une couverture presse très, très, très dense pendant plusieurs semaines, y compris Le Monde a fait un mémorial sur les victimes.
Oui.
Est-ce que cette matière, aussi bien pour vous, dessinatrice, que pour les journalistes, vous est utile? Est-ce que vous en servez avant de suivre le procès?
Pour l'aide, peut-être, pour l'aide... Alors, non, effectivement, il y a une association de la presse judiciaire, qui est une association très ancienne, qui date de 1887. On est 180, je crois, à en faire partie, il me semble, à peu près. Bref, qui sommes des journalistes qui couvrons ça de manière habituelle. Pour la première fois, pour le procès V13, cette association a demandé à ce que le dispositif de soutien psychologique qui était mis en place pour les victimes le soit aussi pour les journalistes. C'était la première fois que ça existait. Après, de manière plus globale, dans les rédactions, à Radio France par exemple, mais je sais que ça existe ailleurs, il y a aussi des cellules qui permettent d'avoir recours si on en ressent le besoin. C'est quelque chose, somme toute, d'assez récent. Jusqu'à présent, il y avait quand même toujours la figure du journaliste, reporter de guerre, qui revenait même pas mal, et tout allait bien, et on enfouit. Non, mais vraiment, c'était la réalité. Oui. Moi, je me souviens avoir fait je venais d'être embauchée à France Inter, j'avais fait un reportage sur les 20 ans des attentats de 95 et dans le RER, et j'avais été revoir une consoeur qui travaille toujours à France Inter et qui avait été une des premières reporters envoyées sur place à devoir couvrir ça. En plus, à l'époque, il n'y avait pas du tout de dispositif de sécurité comme ça existait. Elle est arrivée tout de suite avec une moto, un technicien. Elle était descendue dans le métro, un truc qui est inconcevable aujourd'hui. Donc elle avait été en prise avec une réalité très difficile. zéro débrief, rien. Le lendemain, on revient au boulot comme si de rien n'était. Et elle m'a dit, j'ai remis un couvert, tout s'est bien passé. Puis 10 ans après, quand il y a eu les premières commémorations, je me suis littéralement effondrée sans comprendre ce qu'il s'agissait. Parce que le syndrome post-traumatique, c'est quelque chose qu'on n'explorait pas. Mais on ne l'explorait même pas pour les victimes. On vient de passer le procès de l'attentat de Copernic, parce qu'il a été jugé maintenant, alors qu'il date de 80. Oui. Les victimes qu'on a toutes vues débarquer à l'audience, toutes les personnes qui étaient dans la synagogue, qui avaient parfois 12, 13 ans, qui quand même ont été victimes d'un attentat avec une verrière qui s'écroule, une bombe qui explose, etc. Il n'y en a pas une qui a vu un psy derrière, parce qu'on ne pensait pas ça. Donc c'est assez récent, que ce soit pour les victimes et encore plus pour les professionnels et les journalistes. Maintenant, ça existe et je crois que ça s'est totalement j'allais dire démocratisé, mais en tout cas moi, je l'ai volontairement dit et j'ai aucun problème à dire que pendant V13, j'ai été voir un psy, que ça m'a permis de vider mon sac et que je pense que ça m'a plutôt permis de mieux faire mon métier que d'avouer quelques faiblesses que ce soit, parce que finalement, heureusement qu'on n'est pas complètement perméable à ce qu'on entend. Donc, j'ai volontairement aussi dit pour que ça puisse servir aux autres que de dire, bah oui, on y va et soit. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, c'était la première question. Je vous laisse pour la deuxième.
L'autre
pour ce qui est de regarder ce que les autres font, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est qu'au procès, moi, je ne fais pas d'instruction. C'est-à-dire, je ne fais pas d'enquête. Je ne vais pas chercher l'information. Il y en a qui adorent ça, aller chercher le scoop. Moi, je n'aime pas trop. Moi, j'aime avoir tout le dossier, tout le récit et puis pouvoir en faire quelque chose. Et au procès, ce qui, moi, me fascine toujours, c'est qu'en fait, on a tous accès à la même chose au même moment. Et il n'y a pas de scoop à aller chercher et effectivement, on va tous en faire quelque chose de différent. Mais ce qui est super, parce qu'en fait, du coup, on se rend compte aussi qu'il y a la place pour tout le monde.
Ça, c'est une grande différence par rapport à 20 ou 30 ans auparavant, où, en matière d'instruction, on a eu quand même, ici et là, un journalisme de révélation. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça se constate beaucoup moins qu'auparavant.
Parce avec que les chaînes télé en continu, on a
voilà.
quand même
y a
quand même une course à l'échalote assez importante.
Oui, mais sur Epsilon, ça ne dure jamais qu'une heure, trois heures ou un jour, grand maximum. En fait, la machine fonctionne par son propre mouvement et non pas par une importance de révélation ici ou là. Il y a 30 ans, il y avait un gros titre du Monde qui tout à coup faisait choc et faisait vivre l'affaire de manière différente. Il y a une autre question peut-être qui est à poser, parce que moi j'en ai une là qui m'est venue. C'est un monsieur. Allez-y monsieur, allez-y, n'hésitez pas.
Merci. Bonsoir et merci pour cette rencontre. Moi j'ai notamment lu l'ouvrage d'Élise Costa, très passionnant, très intéressant, vraiment touchant. J'ai été notamment frappé par la figure de l'avocat général dans cet ouvrage-là, que finalement, j'ai l'impression qu'on connaît assez peu. En tout cas, moi, c'est mon cas. Et du coup, je recoupe avec ce que vous disiez sur cette faible acculturation, finalement, des Français par rapport au monde judiciaire. Chacune à votre place, vous essayez justement de faire de la pédagogie. Qu'est-ce que les pouvoirs publics, d'une manière plus globale, pourraient faire pour améliorer cet état de fait, faire en sorte qu'on puisse...
Pour la pédagogie d'avoir...
Oui, tout à fait.
Bah pour moi, par exemple, ce que je trouverais très bien, mais ça ne peut pas être systématisé, enfin, peut-être, je trouverais ça bien que des lycéens, par exemple, aillent dans les tribunaux, vu que c'est ouvert à tous et qu'on peut y assister le temps qu'on veut. Ça serait vraiment intéressant pour eux de voir comment ça fonctionne, on leur explique. Et en plus, la pédagogie, elle est quand même assez simple. Après, effectivement, les nuances juridiques et tout ça, bon, bah, ça, on les apprend aussi sur le tas. Mais pour savoir ce qu'est un procureur, un avocat général, comment... Enfin, je pense qu'à l'école, ça pourrait se faire, quoi. Et puis de voir par eux-mêmes aussi. Et de se rendre compte des gens dans le box et des gens qui viennent témoigner, je pense que ça serait hyper important.
Noël ?
Alors moi, ce que je trouve absolument passionnant, c'est qu'en ce moment, on va dans des lycées avec Arthur et on parle avec des images comme ça. On parle aux étudiants, il y en a qui étaient jeunes même, de ce que c'est qu'un procès, qui sont les gens, Et vous avez des retours des étudiants absolument formidables. Je me souviendrai toujours quand Arthur a dit « Qu'est-ce que c'est d'être victime à tous ces jeunes du lycée de Sceaux ?» Je t'assure qu'il y avait un blanc dans la salle, c'était formidable. Et je n'arrête pas de faire des démarches pour continuer dans les facs de droit aussi. Je pense qu'on doit, avec l'expérience qu'on a chacun, aller vers la jeune génération, montrer ce que c'est qu'un procès. D'abord, ça me passionne, il faut le transmettre, c'est obligatoire. Et ça, je n'aurai de cesse d'arriver à mes fins. Et je suis obstinée.
Ça non, a l'air. Mais...
Oui, certes, voilà, certes. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, même les jurés qui sont amenés un peu à disparaître pour une certaine catégorie de crimes, c'est les jurés, ils le disent souvent, ils disent en fait, il y a eu un avant, un après, parce que en fait, c'est très compliqué de juger, et là, ils s'en rendent compte, et c'est quoi une peine juste, et puis, ils ont une formation, et dans certaines juridictions, ils peuvent aller voir les maisons d'arrêt, enfin, les prisons. Donc, ça, c'est super important.
Arthur, c'est Arthur des Nouveaux, hein, je... Voilà. Madame. Non.
Justement, en fait, je me demandais si, a posteriori, ça vous est arrivé de vous dire, mais je me suis... Alors, pas complètement plantée, peut-être, c'est pas possible, mais cette situation-là, je l'ai vue à cette époque-là, d'une certaine manière, et maintenant, avec le recul où... peut-être l'apport de consoeurs ou de confrères, je le vois autrement. Et en fait, bah, on parlait de subjectivité tout à l'heure, je me suis plantée quelque part où il y a quelque chose que j'avais pas vu, en fait. Est-ce que ça vous est arrivé, ou en tout cas de revoir les choses autrement par la suite?
Alors moi par exemple, je sais pas si je comprends bien votre question, mais par exemple souvent on me demande, quand je suis une affaire, alors est-ce qu'il est coupable ou pas?
Oui.
En fait, je me pose pas cette question. J'estime que c'est pas mon donc j'ai pas un prisme qui est de me dire je dois avoir un avis sur les choses. Alors évidemment que j'en ai un peu un quand même, et que va discuter entre nous, et que autour d'une bière on va dire non mais attends, mais tu vois bien que mais c'est quand même très à la superficie des choses. C'est-à-dire que pour moi les choses se posent pas en ces termes. Pour moi les choses se posent dans les termes de il est en train de se jouer ce débat-là, et moi je vais vous le raconter et je vais essayer de vous l'expliquer et vous donner les éléments pour que vous compreniez ce qui se joue. En fait, finalement, après, vous en pensez ce que vous voulez. Et puis surtout, la justice va en décider ce qu'elle voudra, et ça sera une vérité judiciaire. Et pour ça, par exemple, parce que quand on parle de comment aller expliquer, comment faire de la pédagogie, je trouve que les réseaux sociaux sont quelque chose qui peuvent être un outil fantastique, aussi parfois très délétère, mais ça, moi, le live tweet, par exemple, me permet de faire ça mieux que nulle part ailleurs, je crois, ou du mieux possible, en tout cas, pour être un peu plus humble. C'est vraiment d'amener la personne à côté de moi. C'est l'image que j'en ai, en tout cas, à côté de moi sur le banc de l'audience, et de lui dire, attends, regarde, je vais te raconter, je vais t'expliquer ce qui se joue, mais je vais te l'expliquer en te donnant tous les éléments. Après, mon interprétation à moi, finalement, elle compte assez peu, quoi. Là où j'ai une valeur ajoutée, c'est pour expliquer ce qui se joue. Voilà pourquoi c'est important, voilà pourquoi cet élément-là, il est fondamental, voilà pourquoi ce débat-là, eh ben, il peut peser pour la suite, certes, mais finalement, est-ce que l'accusé est coupable ou pas, c'est pas mon problème. Mais pardon, j'ai peut-être pas mal compris. Alors, peut-être que quelqu'un
non, mais après, pour ce qui est de l'erreur a posteriori, je pense que ça arrive assez peu, parce que justement, comme on parle beaucoup entre nous, j'aurais pu en faire. Mais
une régulation, c'est ça que
c'est, pas une régulation, mais en tout cas, je vais prendre un cas très concret. Je me souviens d'un accusé qui était très mystérieux, et les experts psy étaient complètement passés à côté de lui, quoi. Enfin, ils avaient fait un entretien et ils nous ont expliqué pendant une heure et demie pourquoi il n'était pas schizophrène, ce qui du coup nous intéressait absolument pas. Je comprenais pas trop le sujet. Et arrive la femme de cet accusé. Et là, elle dit quelque chose, mais c'est... Du coup, je vais essayer de le dire sans le dire. Mais en fait, elle parle de son état de santé et de ce que, en fait, cet homme lui a fait.
Ouais.
Et à travers ce détail, on comprend. On comprend vachement de choses. Et c'est incroyable que les psys ne l'aient pas vu, ou en tout cas ne se soient pas entretenus avec elle. Mais on comprend énormément de choses. Et en fait, moi, si je n'avais pas eu mes consoeurs et mes confrères, je l'aurais dit. J'aurais raconté ce moment.
Ah oui.
Et en fait, en discutant avec eux, ils me disaient « Non, mais attends, elle est encore salariée, elle a le nom de l'accusée, on peut la retrouver hyper facilement. » Et c'est vrai que du coup, j'ai fait un mauvais papier. Mon papier n'est pas bon parce qu'on ne comprend pas qui est cet homme, mais en fait, c'était plus important de faire attention à elle à ce moment-là, quoi. Donc, voilà, c'est ce genre de choses qui peut arriver.
Parfois, effectivement, dans le récit, on parlait de dire l'horreur et de décrire l'horreur. On est toujours sur une ligne de crête entre expliquer ce qu'on est en train de juger, hein, l'idée c'est pas d'aseptiser, et ne pas tomber dans le voyeurisme. Et effectivement, l'interprétation, je pense que ça rebondit un peu sur ce que tu viens d'expliquer, cette ligne de crête, parfois on se dit qu'on a été un peu trop loin ou un peu trop peu, ça peut arriver. Moi, il y a parfois des termes que j'ai eu. Alors, quand on, en radio par exemple, parfois on écrit des papiers qu'on laisse pour la matinale du lendemain, on a le temps de les réfléchir mille fois, etc. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai commencé à écrire mon papier à 17h pour un direct à 18h, donc ça va un peu vite quand même. Parfois on n'a pas exactement le bon mot, il y a des jours où on écrit mieux que d'autres, il y a des live tweets où je me dis que j'aurais pas tout à fait dû tourner comme ça. Oui, ça peut arriver. Il y a un ton qu'on peut qu'on peut se dire qu'on aurait peut-être pas été, donc ça arrive. Moi parfois ça arrive de me dire que j'ai été un peu trop, etc. Maintenant l'expérience me fait dire que quand je doute sur le est-ce que c'est trop trash entre guillemets, c'est qu'en général ça l'est. Non mais c'est vrai, la réponse on a déjà un niveau de tolérance et d'acceptation des choses qui est bien supérieur à la moyenne française parce qu'on en voit trop en fait. Donc en général quand moi je commence à me poser la question, c'est que derrière il vaut mieux que je change de terme ou de d'explication.
Une autre question ?
Merci. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette rencontre, c'est hyper intéressant. J'avais deux questions. La première, ce serait notamment comment vous faites en tant que journaliste pour réussir quand même à garder un minimum de distance avec que ce soit les parties civiles ou la défense, parce que voilà, comme vous dites par exemple, vous êtes à côté d'eux sur les bancs, c'est quand même pas rien, je trouve, d'avoir cette proximité, et puis de voilà, par exemple dans des cas du V13, de vivre ça pendant 10 mois avec eux, ça doit quand même être difficile. Et deuxième question...
D'autant qu'ils lisent et qu'ils écoutent, et donc il y a le feedback qui est rapide. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et deuxième question qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais vous aviez évoqué au tout début la question aussi des moyens de la justice. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, même en couvrant des procès exceptionnels, donc où on se dit qu'il y a peut-être plus de moyens que dans de la justice ordinaire? Et est-ce que vous pensez que le chroniqueur judiciaire a un rôle aussi d'éveil là-dessus?
Je vais commencer par la fin pour être sûre de ne pas me tromper.
Sur les moyens de la justice.
Sur les moyens de la justice. La justice était très pauvre. Je veux qu'on le retienne. Oui. Non, mais je me souviens comment on peut le voir. On le voit de plusieurs façons différentes. Mais je me souviens d'un jour où le docteur psychiatre Zaghouri arrive à la barre. C'est pour le procès 3DEC. Il arrive à la barre et il dit « Bon, ben voilà, avant de toute chose, avant de commencer mon rapport, j'aimerais dire combien la justice souhaitait me payer. » C'était de l'ordre de 213 euros, enfin quelque chose de... Alors que ça représentait des dizaines d'heures de travail. Ouais. Il y allait, il y retournait, il fait taper son rapport. Il dit « Bon, ben du coup, pour ce prix-là, j'ai préféré le faire gratos. » Et en fait, il le dit, il est, parce qu'il est malin et parce qu'il connaît bien les cours d'assises, il le dit publiquement parce qu'il sait que dans les live tweets ou quelque part, ça va ressortir et comme ça, on va se rendre compte. Et du coup, les avocats généraux qui étaient fort gênés se sont levés ensuite en disant ben, au nom de la justice, on s'excuse de ces tarifs. Voilà. Ça, c'est un détail qui m'est revenu quand vous avez parlé de ça.
Mais même quand on couvre des procès exceptionnels comme V13, on s'en rend compte parce que V13 a eu tellement de moyens. Effectivement, c'est Hugo Micheron qui était un chercheur qui est venu... à la barre pendant 6 heures, qui a dit c'est de la justice de luxe. On s'en rend compte par le contraste, en fait. Il suffit de retourner juste après en compas immédiate, qui finit à 22 heures, avec pas de moyens, etc. Et même sur certains dossiers terroristes. En janvier dernier, ou en décembre dernier, bref, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, il y avait un procès qui était le procès Bor et Merabet, qui était le procès d'un projet d'attentat assez sérieux, avec des accusés assez impliqués, et en tout cas avec un pédigré assez lourd. Qui était un procès prévu pour 3 semaines, je crois qu'ils étaient 8 ou 10 accusés, autant d'avocats, etc. Et en fait, ce procès a été interrompu brutalement. On va devoir tout recommencer au mois de décembre prochain. Pourquoi ? Parce qu'il manquait une assesseur supplémentaire. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas eu d'assesseur supplémentaire. Et donc, du coup, bah, y en a une qui est tombée malade et c'était terminé. Donc, même sur ce qui est le haut du panier en termes de moyens, ça arrive aussi. Et je vous parle ça à la Cour d'appel de Paris, qui est une des mieux dotées de France. Donc, oui, le manque de moyens, on le voit, mais tous les jours. il suffit d'aller à Bobigny, à Créteil, à n'importe où, faire de la comparution immédiate pour se rendre compte à quel point c'est déplorable. Donc évidemment qu'on a un rôle, et aussi on le raconte quand on rencontre une audience qui finit à 2h du mat, on dit ça aussi. Et il y avait une première question qu'on a tout oublié.
Ouais, c'était la distance. Ah, comment on fait pour la distance?
Malgré la proximité.
Non, mais ça c'est pareil, chacun va faire avec ses moyens et avec ce qu'il est. Moi je sais que le fait d'avoir un carnet m'aide beaucoup. Ça fait une sorte d'écran. mais...
Eh oui.
Oui.
Le dessin aussi
forcément.
Le dessin c'est formidable parce que c'est immédiat.
Pardon, c'est immédiat autrement dit... C'est quelque chose qui je ne dis pas que ça console et je ne dis pas que ça guérit, mais c'est immédiat dans tout ce qu'on transmet. Donc il n'y a pas de limite à ce qu'on peut transmettre, mais après c'est terminé.
Noël, là, c'est-à-dire c'est aussi un écran protecteur. Vous êtes dans votre dessin, vous voyez.
Pour moi, il n'y a pas de protection. Hein.
Non. Non, ça je sais, j'ai bien compris. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas... directement impacté par Dieu sait quel événement, parce que vous produisez quelque
exactement.
Chose.
Exactement. Voilà. Et sur le moment.
Et sur le moment. C'est comme le caméraman qui filme une séquence terrible.
Exactement.
En fait, ça passe par l'objectif.
Immédiat.
Mais il y a aussi la question de la distance, si je comprends bien, malgré la proximité qu'on peut avoir avec certains acteurs. Effectivement, il y a des avocats qu'on tutoie et qu'on connaît très bien, hein, soyons francs. Voilà, avec qui on va boire un coup parfois à la fin de la journée. Déjà, c'est pas parce qu'on connaît bien un avocat qu'on est d'accord avec le client qui défend.
Qu'on est son complice.
Ça n'a quand même rien à voir. Absolument pas. Moi, je peux être bien apprécié certains avocats et trouver que son client est la pire des ordures, ça peut arriver. Et ensuite, quand bien même on peut, et ça vaut aussi pour les parties civiles, hein, on peut avoir certaines affinités qui ne préjugent en rien de la culpabilité de l'accusé, ça n'a rien à voir en fait. Être touché par les victimes du 13 novembre ne veut pas dire qu'on a envie de condamner absolument toutes les personnes en face. Pour moi, en tout cas, c'est deux choses qui sont totalement distinctes. Et aussi, il y a le fait, et on revient encore sur cette idée qu'on a un peu développée, mais quand on suit un procès d'assises, on peut être touché par un accusé à un instant T, par exemple, c'est le dessin de Barbie, où on va avoir une forme d'empathie, et puis 5 minutes après, on va avoir un témoignage qui va nous faire dire oh là là, c'est que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Encore une fois, on revient là-dessus, mais donc du coup, cette distance, elle se fait en permanence, c'est-à-dire qu'on n'a pas une idée arrêtée. Absolument. Sur les choses, sur les gens, etc. Et donc oui, on peut. Moi, j'ai aucune difficulté à pouvoir avoir des moments d'empathie avec certaines personnes qui ne préjugent en rien des faits qu'on est en train de juger. Pardon,
c'est pas une lutte en fait. Ouais. C'est pas une lutte.
Oui, c'est pas incompatible.
Et parfois, on pleure aussi. Nous-mêmes, quand on entend des témoignages qui nous touchent vachement, alors évidemment, on est discret, mais on s'empêche jamais, on ne se dit pas « Ah là, je ne suis vraiment pas professionnelle ». Enfin, moi, non, ça...
Il faut se laisser aller dans un procès, je trouve. Il faut se laisser aller totalement à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, en tout cas. Pas se poser de questions et plonger. Et c'est comme ça que, ça ressort.
Magnifique conclusion, Noël. Magnifique. Il est 20h30, c'est l'heure de la signature. Juste une remarque, vous avez vu que, en fait, on n'a pas cessé de parler d'éthique et de déontologie. Et ça, c'est, je trouve, tout à fait remarquable et appréciable en ces temps où le journalisme est si décrié. Avec la morale de l'histoire, il faut y aller, écouter, voir et raconter. Je trouve que l'autre grand mot de la soirée, c'est les récits. Les récits, les histoires, avec leur intensité, leur force et leur complexité. Je vous remercie énormément d'être venu. Oh, il y a toujours des suites. Il faut qu'il y ait des conséquences à tout ça. En tout cas, grand merci. Oui, espérons. Grand merci à nos invités.
Merci. Je vous invite à nous rejoindre à la sortie de la salle, à acheter des livres et à les faire signer et à continuer à poser vos questions. Les chroniques de Charlotte Pires sont toujours disponibles sur le site de France Inter, tout comme Fenêtre sur cour, le podcast d'Élise Costa, son livre aussi que je vous encourage aussi à acheter, et aussi pour Noël Ehrenschmidt. J'en profite aussi pour vous rappeler une exposition numérique que la BPI avait faite il y a quelques années, qui s'appelle Traite Justice. Donc donc vous pouvez toujours la consulter sur notre site. On a fait des articles également sur Balise, le magazine de la BPI, avec un dessin de Noël Ehrenschmidt commenté avec une infographie. Donc tout ça sur notre site. Et voilà. Je vous remercie. Je remercie Hervé pour son animation, sa modération. Et vous retrouverez certainement Profession Reporter à la rentrée. Merci, au revoir.